C'est 23.
Au réseau Cogeco, Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Jérémy Rainville.
C'est une nouvelle qui est arrivée aujourd'hui et on a appris, puis j'en parlais juste avant d'aller à la pause, c'est sorti voilà peut-être 2-3 semaines du côté de Hockey News qui disait la rumeur voulant que Rogers vende les droits de diffusion du lundi à Prime Prime Vidéo en fait. Amazon Prime, pardon, je vais le dire comme faux. Et Amazon Prime pour les matchs du lundi. Puis on parlait à l'époque, je me souviens d'avoir lu dans Hockey News, qu'on parlait des matchs de série également qui seraient là. Donc ce qu'on apprend, c'est que tous les matchs du lundi soir seront disponibles en anglais en exclusivité aux abonnés de Prime Video lors de la saison 24-25 et 25-26. C'est les deux dernières années du contrat de Roger avec la Ligue nationale de hockey. Il s'agit de la première entente du genre selon Prime Video. Et ce qu'on lit dans la presse, on dit que Prime Video n'a pas précisé pour l'instant s'il y aura ou non des diffusions de matchs en français. Donc voilà la situation. Pour en parler, il est professeur en communication de l'Université d'Ottawa, spécialiste marketing. Luc Dupont est avec nous. Bonsoir, M. Dupont.
Bonjour, Jérémy.
Hey, je veux savoir dans un premier temps, ça sent quoi pour la suite des choses? Il reste 2 ans au contrat de télévision. On rentre Amazon Prime. Est-ce qu'on peut penser que les offres de plateforme vont décupler à la fin du contrat de télédiffusion après 2 ans?
La réponse courte, c'est oui. En tout cas, ce qu'on peut penser, c'est que dans le cas de Rogers, on a probablement décidé de ne pas renouveler l'entente à la fin des 12 ans. En tout cas, certainement pas l'entente telle qu'on la connaît aujourd'hui. Sinon, évidemment, ils auraient conservé ces droits-là pour les 2 dernières saisons. Puis ça coïncide d'ailleurs, le contrat d'Amazon, avec exactement ces 2 saisons-là. Donc, on n'est pas dans le secret des dieux, mais ce qu'on peut penser, c'est que Rogers cherchait à vendre une partie de tout ça. Remarque, quand tu jettes un coup d'œil sur le hockey des séries, puis c'est entre autres ça, pas exclusivement, mais évidemment, il s'agit de le regarder, le hockey des séries, pour comprendre que c'est ça qui vaut beaucoup, beaucoup de fric. Souviens-toi que la 2e année de ce contrat-là, dans le temps, il s'était retrouvé avec 0 équipe canadienne hein, dans les séries. Ça, c'était une première, je pense, à l'époque. Évidemment, il y a les Maple Leafs. Si tu exclus l'an dernier, bon, contre la Floride, entre autres, ça s'était mieux passé. Et dans le cas du Canadien, mais évidemment, tout le monde qui nous écoute connaît l'histoire sur le bout de ses doigts. Donc, ce qu'on peut penser, c'est que c'était une entente historique dans le temps. Tu te souviens, 12 ans? On était en 2014-2015, puis dans le fond, la vérité, c'est qu'on ne pouvait pas deviner ce que les médias deviendraient, n'est-ce pas? Si on avait dit dans le temps, Netflix va faire de la lutte un jour, ou Amazon va faire du soccer français, ou Apple va faire de la MLS, on aurait dit, ben premièrement, c'est quoi ces affaires-là? Puis deux, pourquoi ils feraient du sport? Alors évidemment qu'aujourd'hui, on comprend que ça peut être extrêmement payant. Dans le cas d'Apple, ben ça permet de diffuser ces matchs-là à l'échelle planétaire. D'ailleurs, la rumeur, c'est qu'ils travaillent actuellement beaucoup sur la F1. Puis déjà dans le temps, il y avait cette rumeur-là qui courait. Puis dans le cas d'Amazon, ben t'as le hockey la NFL du jeudi, t'as le NASCAR, on oublie ça, mais le NASCAR, à partir de bientôt, en fait, là, il va falloir commencer à le regarder sur Amazon. Les Yankees, la Première Ligue en France, et semble-t-il qu'ils font un bon travail là-bas. Les téléspectateurs français, les amateurs de foot, ont pas la réputation d'être faciles, puis ils disent, sais-tu, Amazon, ils font une bonne job, puis somme toute, qualité, rapport, prix, tout ça, ça fait bien du sens.
OK, et avec Disney là-dedans, est-ce que Disney peut s'amener sur le côté et venir ravir ça à la Ligue nationale de hockey? Parce qu'on sait qu'il y a eu toujours un rapprochement entre la Ligue nationale et Disney.
C'est possible, mais au moment où on se parle, je précise que techniquement, aux États-Unis, depuis 2021, Disney est associé à la Ligue nationale de hockey avec ESPN+, et parfois des matchs aussi que tu retrouves sur HBO, spécialement en série. C'est un contrat de 7 ans, 625 millions de dollars. Donc, rien à voir quand tu compares ça avec le contrat canadien. 12 ans, 5,2 milliards, là, quand tu fais le croisement. Visiblement, le hockey, ça vaut pas mal plus au Canada. Mais oui, c'est possible qu'éventuellement ce soit Disney. Mais moi, mon 50 sous, là, je le miserais sur Amazon parce que visiblement, ils ont une bonne entente avec la Ligue nationale de hockey. Tu as peut-être vu, il y a une couple d'années, tu avais eu l'espèce de, je parlerais de télé-réalité, mettons, à défaut d'une meilleure expression, docu-réalité, tiens, des Maple Leafs. Mm-hmm. Plus récemment, tu as peut-être vu le documentaire sur Alexandre Daigle.
Ouais.
Et pour les gens qui nous écoutent, si vous n'avez pas vu le documentaire sur Joe Sakic, qui est là depuis quoi, une semaine et demie, tu apprends, entre autres, l'état d'esprit de Marcel Aubry au moment où il a signé le contrat de vente des Nordiques, et tu apprends le propriétaire, donc comme ça, comment ils avaient appris que les Nordiques étaient à vendre. Puis c'est deux choses qui vont te surprendre si tu n'as pas vu le documentaire. Sinon, évidemment, je vais laisser aux gens le soin d'avoir la surprise. Mais c'est un documentaire qui est extrêmement bien fait. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a encore beaucoup d'autres documentaires qui sont en préparation actuellement. Alors, dans le cas d'Amazon, visiblement, ce lien-là d'affaires avec la Ligue nationale, ça fait leur affaire jusqu'à maintenant.
On est en conversation avec Luc Dupont, qui est professeur en communication à l'Université d'Ottawa, spécialiste marketing. Monsieur Dupont, moi, je veux savoir une chose. Est-ce que la clientèle est prête à ça pour ici, pour le Canada, pour le Québec? Est-ce qu'on est prêt à m'emmener à payer une plateforme de plus pour regarder des matchs de Ligue nationale? Et là, on le sait pas pour la diffusion française. Ça peut-être qu'à un moment donné, ça va arriver que Amazon, si tu veux regarder le Canadien en série un lundi soir, tu vas être obligé d'avoir cette plateforme-là. Sinon, tu pourras pas regarder le match.
C'est certain que ça s'en vient. Maintenant, c'est la vitesse. Et dans le cas du hockey, si ça peut rassurer certaines personnes, c'est probablement le sport qui a pris le plus de temps à faire le saut. Parce que dans le cas de la MLS, on connaît l'histoire. C'est la totalité, en fait, des matchs qui sont présentés sur Apple. Et on a décidé, même du côté de la NFL, pour le Noël prochain, là, il y a deux matchs qu'on a planifiés au calendrier qui vont avoir lieu le jour de Noël. Et on pense que pour chacun de ces matchs-là, on va aller chercher 100 millions de dollars pour un match de football, quand tu y penses. Alors, dans le cas du hockey, pourquoi on a retardé? L'explication, en fait, c'est la démographie. Alors, comment ça s'explique? C'est que, du côté de la Ligue nationale de hockey, c'est parmi les fans les plus âgés en Amérique du Nord de sport. Ça, ce que ça veut dire en marketing, c'est lumière rouge qui allume très, très fort. Dans le cas du soccer, je te le donne en mille, c'est parmi les fans les plus jeunes. Donc, si on avait à prédire le futur, ce qu'on peut curieusement dire, puis chaque fois que je raconte ça au Québec, on me dit non, ça se peut pas. Ça veut dire que c'est le soccer qui s'en vient. Et ça fait drôle à dire parce qu'évidemment, je comprends que là, on parle à des gens qui sont fanatiques du hockey, mais c'est ça qui s'en vient lentement. Et dans le cas de la F1, pourquoi ils sont allés sur Netflix avec le Drive to Survive? C'est pour rajeunir l'auditoire. Puis pendant ce temps-là, ben, t'as le baseball qui est plus vieux. Qu'est-ce que le baseball a fait l'an dernier pour rajeunir l'auditoire? Ils ont dit, on a un problème, c'est trop long. Ça, c'est une génération qui est pas capable de suivre un match de baseball du début à la fin. Ça se pourrait-tu que les lanceurs, tiens, pourraient perdre un peu moins de temps? On va raccourcir les matchs. Et là, il y avait des gens, des sceptiques dans la salle, qui disaient, mais voyons, tu penses que si on raccourcit le match, on va augmenter les codes d'écoute? Ben, l'an passé, on a effectivement augmenté les codes d'écoute, puis on a le sentiment que lentement, mais sûrement, le baseball revient sur les écrans radar. Donc, c'est essentiellement de la démographie. Et là, le talent qu'il faut avoir, puis il est pas facile, Jérémy, c'est à quelle vitesse tu fais le saut. Et là, la stratégie actuellement, tu le vois bien, c'est ce qu'on appelle une stratégie hybride. Je vais encore t'en donner sur semaine des matchs classiques, là, sur la télé traditionnelle. Mais en même temps, tant que je reste là-dessus, mon auditoire est plus âgé. Moi, je vais absolument rajeunir mon auditoire parce que j'ai besoin de futurs clients. Donc, je suis obligé de faire le saut lentement, mais sûrement vers les nouvelles plateformes.
OK. Luc Dupont, on va se mettre dans la peau maintenant des diffuseurs. Si vous et moi, Luc, on est assis à une table avec le grand chef, je sais pas moi, de Rogers ou de TVA ou de RDS, on fait quoi? Est-ce qu'on a les bras croisés puis on regarde le bateau passer? Ben, on fait quelque chose. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Ben, il y en a qui te diraient que c'est peut-être une bonne nouvelle pour TSN et RDS, parce que le sentiment qu'on a, en tout cas, c'est visiblement Sportsnet. Rogers refera pas la même chose. Alors, il va peut-être avoir plus de matchs de disponibles, on le sait pas. Qu'est-ce qui va se passer du côté des matchs, des séries, on le sait pas non plus. Mais je reviens à ta toute première question, parce qu'en y repensant, l'impression que j'ai, c'est pourquoi Amazon ne déciderait pas, à la fin de ce contrat-là, qui pourrait à peu près coïncider aussi avec la fin de l'autre contrat,
exact,
celui signé en 2021, pourquoi il ne dirait pas, on prend l'ensemble de la mise, puis on prend l'ensemble de la mise à l'échelle planétaire, parce que je te ramène à Bateman. Bateman a fait coup sur coup deux, trois fois la même erreur, de pas comprendre que si tu veux un jour vendre tes droits en streaming à l'échelle planétaire, il faut que ton sport soit populaire à l'échelle planétaire, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Puis il passait toujours les Jeux olympiques d'hiver. Ça n'avait aucun sens. Alors là, pourquoi ils viennent nous dire, « Ah, savez-vous, je viens d'y repenser, les Jeux olympiques d'hiver, finalement, on va s'entendre, on va essayer de faire quelque chose. » Puis en même temps, les autres ligues aussi sont beaucoup plus créatives que la Ligue nationale. Alors l'exemple que je te donnerai, la NBA, qui dit, « Savez-vous quoi? Ce qu'on s'aperçoit, c'est que nos codes d'écoute sont beaucoup plus élevés durant les séries. Tiens, pourquoi on ne créerait pas quelque part au milieu de la saison un mini-tournoi? » Qu'on va aller voir les streamers, puis on va leur offrir ça en leur disant, tant le temps on vous offrait juste les séries éliminatoires, on va vous créer un autre événement quelque part au milieu de la saison. Et c'est ce que la NBA a fait. Alors, ma prédiction, une autre, je serais pas surpris qu'éventuellement la Ligue nationale de hockey annonce que dorénavant, il y aura la saison régulière avec les séries de la Coupe Stanley. Et peut-être, quelque part au milieu, une saison dans la saison. Une espèce de mini-tournoi, un peu à la sauce NBA.
Un peu ce qu'on voit aussi du côté du football universitaire, le March Madness qui prend, une l'ampleur, une affaire pas possible. Bon, mais écoutez, Luc Dupont, je sais pas si notre auditoire et si tous les spectateurs et téléspectateurs de la Ligue nationale de hockey sont prêts, mais ça s'en vient, les plateformes s'en viennent. Luc Dupont, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Un plaisir. Bonne soirée.
Merci, au revoir. Luc Dupont, professeur en communication à l'Université d'Ottawa et spécialiste marketing, nous parlait de ses nouvelles. Donc, Amazon Prime, qui obtient les droits pour les deux dernières année du contrat de Rodgers. Donc, en fait, on a négocié avec Rodgers tous les matchs de saison régulière. Je pense que les séries sont incluses là-dedans, mais bref, faudra le vérifier. Là. Les deux dernières saisons, 24-25 et 25-26, disponibles en anglais en exclusivité aux abonnés de Prime Video. Tous les matchs lundi et c'est à partir des deux dernières saisons de diffusion. Là, ça nous amène à notre sujet de conversation, puis je vais prendre le temps de mettre la table à notre sujet, puis au retour, on va prendre des appels, puis on sera là. Tant que vous êtes là, on va être là, nous. C'est comme ça qu'on fait. Vous voyez, on est en mutation présentement. C'est le fun parce que... C'est le fun, j'allais dire, c'est le fun. Bon. La pandémie nous a amené un paquet d'affaires. Tu sais, nous a amené à nous recentrer un peu plus sur nous-mêmes. Ça a amené par moments de l'agressivité entre les gens. Ça a amené des bons et des moins bons côtés. Mais la période que nous sommes présentement et au développement, là, c'est exponentiel. Le développement se fait extrêmement rapidement. Tantôt, on discutait avec Danny Dubé, qui nous parlait du hockey qui a changé dans la Ligue nationale. C'est un feu d'artifice. C'est du va-et-vient, en avant, en arrière. Gros défenseur, on bouge la rondelle. Il y a des buts en quantité industrielle. On voit plus ces matchs. Bon, on les voit de moins en moins, mais des matchs serrés par un seul but. On voit des matchs à plus haut pointage, du moins plusieurs tentatives de tir. Le jeu change. Le jeu est rendu spectaculaire. C'est rendu autre chose. Et là, avec tout ça, on apprend que la Ligue nationale va vendre ses droits pour les droits anglophones, je le précise. Vendre ses droits le lundi soir à Amazon Prime. Est-ce que vous êtes prêts à payer pour ça? Parce qu'à un moment donné, ça va arriver, là. Ça va arriver que ça sera sur des plateformes et que vous devrez payer. Je devrais payer. Je dis vous, là, mais c'est je aussi, là. Tu sais, je devrais payer pour avoir les matchs de la Ligue nationale de hockey. Je devrais débourser de l'argent pour voir le Canadien. Et là, juste vous dire, nous sommes toujours là sur le réseau Cogeco à vous offrir les matchs du Canadien de Montréal avec Martin et Danny. Plug en même temps, mais c'est vrai. Ça va demeurer gratuit, ça. Ça va demeurer gratuit. Tant que vous êtes là, tant que vous avez, tant que votre présence est aussi grande, ben, ça va demeurer comme ça, tu sais. Sauf qu'on est en train de monnayer ça avec des plateformes. Je veux savoir, est-ce que vous êtes prêt à payer pour ça? Oui, une nouvelle plateforme. Oui, tu veux-tu voir des matchs de hockey lundi soir? Ça va peut-être devenir des matchs de semaine, des matchs de fin de semaine. On n'a aucune idée où ça va aller. Mais est-ce que vous êtes prêt à faire ça? OK? Êtes-vous prêt à payer pour du hockey sur une nouvelle plateforme Amazon Prime? Je vous donne les numéros pour nous rejoindre. OK, premièrement, messagerie texte 98985. Je vous mentionne que vous devez absolument mettre votre nom. Moi, je lis pas un commentaire qui est fait dans le vide. Donnez-moi votre nom, dites-moi l'explication. Oui, moi, je suis prêt, je vais payer le 19,95 par mois ou je vais payer le 125,72 par année ou le 210,28 par année. Je suis prêt à payer parce que je veux voir les matchs avec National. Là, on extrapole, c'est pas l'entente d'Amazon présentement. Là. C'est complètement autre chose où on va. Là. On va plus loin quand ça sera dans 2, 3, 4 ans. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Est-ce que vous êtes prêt à débourser l'argent nécessaire? Est-ce que vous êtes prêt à payer une plateforme supplémentaire pour avoir des matchs de Ligue nationale?
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
On est de retour aux amateurs de sport. On va parler série de fin de saison dans la Ligue nationale de hockey avec Martin McGuire.
Remax et le balado Bon Match vous présentent les commentaires hockey de Martin McGuire. Remax, on s'occupe de vous.
Here's Bob Cole. To call it, Bob Cole.
Here's Bob Cole.
Hello everybody, this is Bob Cole in the broadcast booth. Evan Pettisaw dropped it back. Gretzky picked it up, couldn't find it. Yzerman is turning and coming in. Another shot, score! Yzerman!
Vous avez entendu la voix de Bob Cole qui malheureusement s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 90 ans. Lui qui a 152 matchs de série en prolongation de décrit, 47 matchs numéro 7. Beaucoup d'histoires d'un descripteur de match à un autre descripteur de match. Martin McGuire est avec nous. Salut Martin.
Il était extraordinaire, Jérémy, Monsieur Cole. Il était vraiment extraordinaire. Écoute, il a fait ce métier-là jusqu'à l'âge de 80 ans. Y penses-tu?
Quand même, hein?
Vas-tu être encore à l'antenne, toi, à 80 ans?
Je le souhaite. Mais il faut pas que je fasse trop de Michel Lacroix le matin, je te garantis.
Moi, je te confirme que je serais très surpris que je fasse des matchs du Canadien à 80 ans. Monsieur Cole, parce que je l'appelle Monsieur Cole, je l'appelais toujours Mr. Cole, puis je le saluais avec plaisir. Les dernières années qu'il a voyagé, en fait, il voyageait beaucoup moins. Il était dans un rayon assez restreint, là. Mm-hmm. Il venait régulièrement à Montréal. On le voyait beaucoup à Toronto. On l'a vu pour quelques grands matchs importants, là. Des affrontements qui étaient vraiment significatifs. On le voyait. Mais tu sais que Bob Cole faisait pas la grasse matinée à l'hôtel le matin des matchs,
hein? Ah non?
Non, à l'âge de 75-80 ans, dans les derniers moments de sa carrière, il venait à la pratique du matin. Il venait avec son calepin, il venait serrer des mains, il venait rencontrer les entraîneurs parce que pour que les gens nous suivent, c'est qu'à un moment donné, après les disponibilités médias, que ce soit les joueurs dans le vestiaire ou encore l'entraîneur sur le podium, il y a toujours une opportunité pour les descripteurs et analystes qui veulent rencontrer l'entraîneur. Exemple, quand c'est Martin Saint-Louis finit son point de presse au podium. Puis là, il y a les descripteurs et analystes, les équipes de diffusion, que ce soit l'équipe adverse, l'équipe de diffusion adverse locale, l'équipe de diffusion nationale, ce que faisait partie M. Cole avec Sportsnet dans les derniers moments de sa carrière, avec CBC dans la grande partie de sa carrière, rencontre le coach. Puis M. Cole avait toujours droit à sa rencontre toute seule avec l'entraîneur, puis tout le monde se tassait, puis on laissait M. Cole jaser avec l'entraîneur, que ce soit Claude Julien avec le Canadien ou les derniers entraîneurs qui ont dirigé l'équipe. Puis M. Cole venait prendre les trios. Il venait valider les trios pour préparer son match. Puis quand je dis qu'au lieu de se prélasser, puis écoute, à 75 ans passés, là, il aurait pu rester à l'hôtel puis manger ses toasts puis prendre son mollo jusqu'au match de ce soir. Non, M. Cole venait à la pratique du matin, venait rencontrer les gens. Puis pour lui, c'était important. Ça faisait partie de sa préparation de rencontrer les entraîneurs et aussi à la fois quelques joueurs de temps en temps. C'est vraiment, écoute, pour nos compatriotes anglophones, sa voix a représenté la musique qui accompagnait le hockey pendant plus de 50 ans.
Non, c'est une immense perte, le décès de Bob Cole aujourd'hui. Mais Martin, écoute, je sais pas si tu seras là jusqu'à 80, mais on veut te garder encore le plus longtemps possible, s'il te plaît.
Moi aussi, je veux me garder le plus longtemps possible. Mais honnêtement, à 80, Jérémy, je serais très surpris.
OK. Hey, on va se parler des Bruins de Boston qui ont battu hier les Leafs de Toronto par la marque de 4-2.
Ouais.
Raconte-nous, qu'est-ce qui se passe pour les Leafs? Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que Boston est capable de rentrer dans la tête des Leafs de Toronto de la sorte?
Moi, je pense que les Leafs se rentrent eux-autres même dans la tête. Tu me saisis, là.
Oui,
tu sais, je vois les écrits aujourd'hui, puis je vois que l'entraîneur Montgomery, d'ailleurs, moi, je serais pas allé là si j'avais été lui, là, mais il a commencé à dire que Jeremy Swayman était peut-être entré dans la tête des marqueurs des Leafs de Toronto. Ça, c'est un peu malhabile de dire ça quand t'as Austin Matthews de l'autre côté, là, mais je ferme la parenthèse. Jim, c'est un gars qui est spontané, puis là, je pense qu'il a été un peu trop spontané. Mais quand je dis que les Leafs sont leur pire ennemi, Jérémy, là, les Leafs avaient une avance à protéger hier. Parce qu'ils l'ont pris l'avance, puis ils l'ont pris à un moment clé de la partie. Puis je regardais le match, puis je me disais, là, ils ont un vrai test. Là, on va voir s'ils sont passés à l'autre niveau, s'ils sont capables de protéger cette avance-là contre une équipe de la qualité des Bruins. Puis peut-être, à la limite, aller mettre un but dans le filet désert, un peu ce que les Bruins leur ont fait. Mais tu sais quoi? La première mise en jeu, après le but que les Leafs marquent, c'est le trio de Matthews qui est sur la patinoire, avec Bertuzzi et Domi. tu sais très bien que Brad Marchand, c'est un gars intelligent. Lui, il est tout sauf nono Brad Marchand, puis il agit avec émotion, mais c'est souvent bien calculé, ses affaires. Puis là, le but vient d'être marqué, puis il voit que c'est encore les mêmes gars qui sont sur la glace. Ils ont 30 secondes et quelques de présence dans les jambes, puis ils sont encore là. Alors, Marchand commence à achaler Bertuzzi parce qu'il connaît, il a joué avec. Alors, il l'achale. Là, les livres se retrouvent dans leur zone. Et je me dis, à un moment donné, ils vont sortir de là. Non, ils sortent pas de là. Puis là, le but arrive dans la lucarne, par-dessus l'épaule de Samsonov. Le tir était sublime. Mais ça restait un but sur le côté rapproché. Mais quand on regarde ça collé sur la vitrine, on dit, bon, les Leafs sont encore un gardien qui est pas capable de faire la job. Mais je m'excuse, mais les joueurs clés de cette équipe-là, là, avant la mise en jeu, auraient dû aller au banc, Jérémy. Parce qu'à 36 secondes, quand le match est sur la ligne, rendu en troisième période, tu peux pas te faire prendre avec pas de jambes, comme dirait l'autre. Puis c'est un peu ce qui est arrivé hier. Puis les Bruins, c'est une bonne équipe. Ils en ont profité. Marchand savait exactement quoi faire. Alors, tu sais, je regarde les Leafs, puis on a l'impression qu'ils apprennent pas. Ils apprennent pas des malheurs de l'an passé, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, puis d'il y a 4 ans. Ils apprennent pas.
Moi, Martin, je suis pas convaincu de Matthews avec Bertuzzi et Domi. Tu sais, je veux dire, je sais qu'on veut.
Moi, j'aime ça.
Ben, écoute, moi, le problème que je vois avec ça, c'est qu'on a donné, selon moi, en sous-traitance l'intensité chez les Leafs de Toronto. On a appelé Bertuzzi, on a appelé Domi, on a dit, vous allez être nos petites pestes, vous allez travailler à l'entour du filet. Mais j'ai l'impression que on sous-alimente Auston Matthews de cette façon-là.
Sais-tu ce qu'on a essayé de créer? On a essayé de créer une dynamique semblable à McDavid, Hyman.
Mm-hmm.
Tu sais, Hyman, il était à Toronto, hein. Puis il le manque cruellement. Puis c'est un peu ce qu'on a essayé de créer avec Domi. Domi, c'est pas Hyman. Hyman, c'est 53. Mais Hyman, il a toujours le nez dans la moutarde, Jérémy. Il fonce au but. Puis là, McDavid a développé un radar à Hyman. Pourquoi il a tant de passes cette année? À cause de ça. Parce qu'il sait exactement où il va le trouver. Il va le trouver devant le but. Puis, y a-tu quelqu'un d'aussi sublime que McDavid pour faire des passes?
Ah, il est bon.
Alors, cette dynamique-là, on a essayé de la créer à Toronto.
OK.
Avec Bertuzzi puis avec Domi. Moi, je déteste pas l'idée. Mais c'est toujours avec la défensive que les Leafs perdre les matchs.
OK, sauf que, puis là, on va conclure là-dessus, là. Sauf que Matthews est sur un trio avec Bertuzzi, Domi. Là, ça fait que Marner est invisible. Nylander n'est pas là, ne joue pas. Fait que, tu sais, le punch offensif, il est pas bien, selon moi, là. C'est pas concentré. On en a juste pas nécessairement comparativement à ce qu'on a habituellement avec les Leafs de Toronto.
Ça va prendre un petit miracle de la médecine sportive, là, pour amener Nylander. Moi, je pense que Nylander aura pas le choix. Il va jouer le prochain match, là. À moins qu'il y ait quelque chose de passé puis qu'il puisse absolument pas jouer là. Je pense qu'il va jouer le prochain match avec des traitements. Mais tu sais vraiment là, c'est défensivement que ça marche pas, Jérémy. Tu sais, je regardais le grand Edmundson là, il est honnête là. Mais tout ce qu'il sait faire avec la rondelle, c'est la tirer à l'autre bout. Il sait rien faire d'autre. Il patine plus. Il avance plus, notre beau Joël.
Ouais.
Tu sais, il a donné ses derniers coups en 2021 avec le Canadien. Puis là, il surfe là-dessus.
OK, Martin, juste te dire qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a dit ça, que j'étais un joueur de hockey, défenseur honnête. Et là, je comprends ce que ça voulait dire.
Tu sais ce que ça veut dire. Hein?
Là, je
comprends. Non, parce que c'est vrai qu'il est honnête, Edmundson.
Oui, oui, oui.
Puis là, probablement qu'il joue au vétéran dans cette équipe-là, puis il a gagné à la coupe, puis il se bombe le torse, puis il se promène là. Mais honnêtement, là, Jérémy, il avance plus.
Non.
Alors, tu sais, ça fait partie des éléments. Les Leafs perdent parce qu'ils ont pas une bonne défensive. Puis les Bruins en ont une bonne défensive, puis les joueurs sont très commis. Mais tu sais, à part Marner, qui répète ses mauvaises habitudes d'être en périphérie quand arrivent les séries, les autres, ça travaille.
Ah non, c'est sûr, ça travaille fort.
Mais il y a toujours une ou deux erreurs défensivement qui coûtent les matchs.
OK, là, je veux savoir une chose. On va se parler des Kings et Oilers dans quelques instants.
Oui.
Juste avant, est-ce que avec la déclaration de Jim Montgomery, est-ce qu'on vient d'arrêter la rotation Swayman ou Mark?
Oui, c'est fini la rotation. C'est hier, là, écoute, là, Swayman a été impérial. Puis tu sais, de toute façon, là, Montgomery, d'après moi, il veut coacher Browns l'année prochaine. Là. Mm-hmm. D'après moi, là, il veut pas s'en aller de là. Là. Puis c'est parce qu'il va dealer, excusez-moi l'expression, avec Swayman, puis Ullmark sera plus là. Parce que tu te souviens de l'histoire de la date limite des échanges, ben oui, ben oui. Là. Il l'aurait échangé aux Kings, puis Ullmark a exercé sa clause pour rester à Boston. Il va partir cet été, Ullmark. Avec celui avec laquelle l'entraîneur Montgomery doit bâtir des relations, c'est Jeremy Swayman. Okay. Puis là, les petites accolades, c'est bien cute, là, mais c'est parce que l'an prochain, le numéro un des Browns va être le numéro un, le vrai numéro un, puis Ullmark va être parti. Alors, la rotation, d'après moi, elle est finie.
OK, les Kings l'ont emporté 5-4 face aux Oilers en prolongation. La série est égale 1-1. Est-ce que tu sens que les Kings, c'est du sérieux ou on est allé à la dernière minute être capable de marquer un but pour gagner en prolongation? Sens-tu les Oilers en pleine possession dans cette série-là?
Moi, je pense que c'est un soubresaut de la part des Kings. Les Oilers sont très solides. Ils avaient mal commencé le match. Puis hier, là, ce qui a fait la grosse différence, Jérémy, c'est que les joueurs clés des Kings ont été au rendez-vous. Écoute, tu sais, Kopitar a été là. Campe a été solide. Dano a été solide. Drew Doughty a marqué son premier but en série depuis 2014. Ça fait-tu un bout, ça, d'après toi? Alors, tu sais, les leaders, tu sais que après, à la fin du dernier match, Doughty engueulait ses chums au banc.
Oui.
Avant que le match finisse.
Ça va bien.
Il fallait qu'ils rebondissent. Parce que tu peux crier après tes chums quand tu es un gars comme Doughty, mais rebondis, par exemple. Alors, il a rebondi. Puis je pense que les Kings ont montré beaucoup de caractère hier en gagnant une à Edmonton. Mais les Oilers sont très solides. Tu sais, tu les as vus dans le match hier, là, même quand ça allait mal, ça allait pas l'air vraiment à aller mal pour eux. J'aime bien leur langage corporel, pour prendre l'expression de Danny cette année.
Bon, on va terminer avec les Coyotes de Salt Lake City qui sont arrivés à Salt Lake City. Je sais pas si tu as vu les images de Salt Lake. Il y avait 12 000 personnes dans l'amphithéâtre pour les accueillir.
Quand même, hein?
Écoute, c'est pas banal quand même.
C'est presque trois fois ce que les Coyotes ont eu en Arizona dans certains matchs, Jérémy. Non, écoute, je fais un petit peu d'ironie puis de blague, mais je pense que notre ami Tourigny va être dans un bon environnement. Avec Salt Lake City. C'est un bon marché, c'est un bon propriétaire. Moi, je suis allé là, Jérémy, en 1997.
OK, tu l'as vu, cette place-là.
Ça fait longtemps, ça fait longtemps, puis j'avais même profité de l'occasion. Je travaillais à RDS à ce moment-là, puis je faisais les matchs de la Ligue internationale, puis on avait été là pour deux matchs dans un week-end. Puis vraiment, il y avait eu du monde. C'était un week-end, évidemment, c'est plus facile. Je sais pas que l'aréna était remplie, mais c'était l'aréna dans lequel la nouvelle équipe va jouer. Puis je trouve que vraiment, c'est un endroit solide. Puis le propriétaire est très solide. Ça me rappelle un peu M. Foley à Vegas. Ça me rappelle les propriétaires du côté de Seattle. Ce sont des gens sérieux, impliqués dans le monde du sport. Ils connaissent cette business-là. Alors, la population va embarquer parce que Ryan Smith, c'est un gars solide et crédible. Et comme les Coyotes, avec un petit peu d'aide sur le budget, Jérémy, ils vont être capables maintenant de garder des joueurs, puis peut-être même aller se chercher des joueurs. Je pense que les Coyotes sont bien équipés, là, parce que si on dit qu'il y a des belles promesses à Montréal, on regarde les Coyotes, puis il y a des belles promesses pareilles, parce que les Coyotes ont même été un peu meilleurs que le Canadien cette année. Alors, l'équipe montre de belles choses, puis le marché va être solide. Les gens connaissent le hockey à Salt Lake City, et même quand l'équipe de Salt Lake City, de la Ligue internationale à l'époque, voyageait, il y avait des médias de Salt Lake City qui voyageaient avec l'équipe et qui faisaient des reportages. Puis on parle d'une équipe de Ligue professionnelle mineure, là. On parle pas de la Ligue nationale à ce moment-là. Puis je suis allé également à Park City pour faire des tournages pour RDS, parce que les Olympiques avaient lieu là en 2002. Puis vraiment, c'est un endroit formidable, là. La ville, c'est pour ça qu'on appelle ça l'Utah, c'est que la chaîne de montagnes forme un U autour de la ville, de la région de Salt Lake City. Puis c'est vraiment très beau là-bas. Et le pouvoir, là, je vais aller sur un terrain glissant, là. le pouvoir religieux mormon à Salt Lake City a beaucoup diminué ces dernières années.
OK.
Alors, il y a encore des restrictions, mais il y a les citoyens qui ne sont pas de la religion mormon peuvent très bien vivre et se font plus emmerder, puis ils peuvent avoir les libertés qu'ils veulent.
Faudra juste, par contre, là, moi, j'ai vu les images de Guillaume Lefrançois qui était dans l'amphithéâtre, là, va falloir adapter les estrades parce qu'il faut pas que ça devienne comme Brooklyn où ça avait juste, ça avait pas de sens, là. C'était définitivement un amphithéâtre de basket et pas un amphithéâtre de hockey.
Ouais, puis ça, ben écoute, l'équipe va être condamnée à jouer là pour une couple d'années. Semble-t-il que M. Smith veut construire un nouvel aréna de hockey, mais ça se fera pas tout de suite, là. Si on dit que ça prend à peu près 5 ans pour mettre un projet à terme là, au niveau d'un nouvel aréna, ben écoute, ça va être 5 ans dans le Delta Center. Est-ce que si ma mémoire est bonne,
c'est ça.
Le Delta Center? Bon,
exact.
Écoute, mais je l'ai vu, puis ça me rappelle un peu Brooklyn, parce que c'est un amphithéâtre qui a été conçu pour le basket, celui de Brooklyn.
En autant qu'on soit pas sur la ligne des buts pour faire une description de match, tu t'en souviens, Brooklyn, c'était pas super.
Parce que, et pour que les gens nous suivent, là, c'est que quand l'action s'en va de ton côté, le long de la bande, en fond de territoire offensif ou défensif, dépendamment du bord, tu perds. C'est-à-dire que tu vois une belle bataille pour la rondelle, mais tu sais pas vraiment qui l'a.
C'est ça, exact.
La rondelle.
Et surtout qu'on avait la ventilation super froide au-dessus de nous autres.
C'était épouvantable. C'était épouvantable. Danny Dubé travaillait avec ses gants de laine.
Ah, tu te souviens? Sergio Romesso était là à côté avec une tuque, avec sa tuque sur son manteau.
Avec sa tuque. Mais tu sais, écoute, ça c'était typique à Brooklyn. Peut-être que ça va être un peu mieux à Salt Lake City, mais sais-tu quoi, Jérémy? Tout va être mieux que le Mullet Arena.
Pas mal convaincu de ça. Martin, on va te laisser aller pour aller faire dodo parce qu'on veut t'avoir jusqu'à 80 ans comme Bob Cope. Puis tu te couches de bonheur. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire.
Je vous promets absolument rien là-dessus.
Martin, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Salut, bonne soirée, bonne émission.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'était la loterie ce soir du côté de la Ligue d'hockey junior maritime du Québec. Tout le monde croyait que Val-d'Or était pour sortir avec le premier choix. Mais la loterie a réservé quelques surprises. Pour en parler, Stéphane Leroux est avec nous. Salut Stéphane.
Salut Jérémy.
Écoute, Val-d'Or sort de là, sont pas contents. Là, mais malgré le fait que t'as quand même... Ils ont quoi à choix 2 et 3, c'est ça?
Ouais, ils vont avoir les choix 2 et 3. Tu sais, la loterie de la LHGMQ, là, ça fait une vingtaine d'années qu'on fait ça, mais disons que pendant les 12-13 premières années, c'était une loterie plutôt plate. Là. Il y avait les deux équipes qui faisaient pas les séries, 50% un, 50% l'autre. Alors, ça allait d'un côté, ça allait de l'autre. Depuis 2017, on fait une loterie à 5 équipes sous la formule comme on l'a eu aujourd'hui. L'équipe qui a eu le plus de pourcentage à chaque année, c'est 43%. C'est 9 balles de ping-pong sur 21 dans un boulier. C'est pas trop compliqué, là. On met 9 balles d'une équipe, on en met 6 de l'autre, 3, 2, 1. Alors, il y a 21 balles. L'équipe qui a 9 balles, autrement dit, qui a le plus de chances de l'emporter, là, c'est arrivé juste une fois. Ça fait 8 ans, là, maintenant qu'on a cette formule-là. C'est arrivé juste une fois. Alors, c'est pas nécessairement le cas. J'écoutais ton préambule, là. Et aujourd'hui, ce qui rend ça plus triste pour Val-d'Or, c'est que, en plus d'avoir leurs 9 boules à eux. Ils avaient les 6 boules des Remparts de Québec qui avaient fini avant-dernier au classement général en raison d'une transaction faite l'an passé. Alors là, tu avais 15 boules sur 21. Alors là, tu te dis, ouais, ça devrait être une des deux, tu sais. Ben non, c'est pas arrivé. C'est l'équipe qui avait seulement 3 boules sur 21, 14% qui l'a emporté. Et je regardais mes notes, c'est la troisième fois que ça arrive depuis 2017 que l'équipe qui a 3 boules sur 21 l'emporte. En 2017, Rimouski avait gagné, ça avait donné un petit gars qui s'appelle Alexis Lafrenière. Puis en 2021, c'est Sherbrooke qui a gagné dans cette situation-là, puis ça a donné Ethan Gauthier. Alors, je ne sais pas ce que cette année, les Eagles du Cap-Breton, qui étaient dans cette situation-là, vont faire, d'autant plus que les Eagles, c'était pas leur position à eux, c'était la position d'une transaction qu'ils avaient fait avec les Sea Dogs de Saint John. Alors, fondamentalement, aujourd'hui, c'est une transaction faite il y a un petit peu plus de 2 ans, en janvier 2022, qui rapporte aux Eagles du Cap-Breton le premier choix au total du prochain encamp qui aura lieu le 7 juin.
Mais Stéphane, Cap-Breton est présentement dans le carré d'as, va affronter dans le troisième tour, va affronter Bécomo. Est-ce que ça veut dire qu'on ajoute le premier choix au total à une puissance en place ou c'est un club qui est en développement, Cabreton?
Non, ben c'est une équipe qui va être encore assez solide l'an prochain. Ils jouent le premier match ce soir présentement là, à Bécomo. Ils tirent de l'arrière 4-0 après deux périodes. Mais c'est une équipe qui, non, ne sera pas en reconstruction l'an prochain. Et il n'est pas dit que ce premier choix-là, au total, ne sera pas monnayé. Le Cap-Breton veut peut-être accélérer puis avoir une bonne équipe l'an prochain. Alors pourquoi pas peut-être essayer d'échanger ce premier choix-là contre des joueurs qui sont déjà établis dans la LHJMQ. C'est pas impossible que ça arrive. Mais chose certaine, c'est la première fois en tout cas qu'une équipe qui participe à la loterie, là, qui se retrouve avec le premier choix, est aussi une équipe qui est possible d'aller en finale. T'sais, habituellement, ce sont les équipes qui sont dans le bas de classement qui participent à la loterie, mais comme c'est un choix, comme je t'expliquais, acquis dans une transaction, ben, c'est un gros luxe. Là, pour le Cap-Breton, honnêtement, d'être en demi-finale de la Ligue puis d'avoir le premier choix au total, ça arrive pas souvent. Là.
Écoute, c'est une bonne nouvelle pour eux. Et Stéphane, nous, on va se reparler en fin de soirée. Tu vas nous donner un résumé de ce match-là entre Cap-Breton et Bécomo. Et dans l'autre demi-finale, c'est demain que ça commence, c'est ça? C'est Victo contre Drummondville?
Oui, ça commence demain, Victo Drummond. Cap-Breton-Bécomo, c'est aujourd'hui et demain les matchs 1 et 2, et Victo Drummond, c'est demain et samedi. C'est une question de disponibilité d'aréna. Alors, c'est pour ça que ça commence dès ce soir à Bécomo. Et je suis le match présentement en même temps que je te parle. La troisième période vient de commencer. C'est 4-0 pour le Drakkar qui ont pris les devants 3-0 après une période. Le Drakkar qui est en quête d'une 9e victoire de suite depuis le début des séries, là, a balayé ses deux premières séries. C'est une grosse machine de hockey Bécomo cette année dans la LHJMQ. Puis je pourrais te parler aussi plus tard quand on va se reparler de la victoire du Canada en levée de rideau 6-3 au Mondial des moins de 18 ans contre la Suède.
Avec plaisir. Merci beaucoup, Stéphane.
On se reparle tantôt. Salut.
Merci. Au revoir, Stéphane Leroux, qui nous parlait donc de cette loterie pour le premier choix lors du prochain repêchage de la Ligue de hockey junior maritime du Québec. Faut que j'y pense à chaque coup, hein. Je devrais juste dire LHJMQ. On se tromperait pas de cette façon-là. Hein? Ça serait peu de chances que je me trompe. Bon. Ceci étant dit, je vous donne quelques informations. On poursuit avec les résultats dans la Ligue nationale de hockey. Match en cours avec, on est quoi, 1 minute 21 à faire en deuxième période. C'est 3-2 pour les Panthers de la Floride face au Lightning. C'était 2-2. Sam Reinhart qui a marqué son deuxième du match. Autre match qu'on suit présentement pour vous, 1-21. Non, ça, c'est 1-21. C'est pour Panthers Lightning de Tampa Bay. 9-49. Les Hurricanes ont les devants 3-1 face aux Islanders de New York. Ça sent pas bon pour les Islanders de New York. Faut être honnête. La Caroline a du talent. Ça, c'est clair. On pensait que le jeu défensif des Islanders de New York ferait en sorte qu'on serait en mesure peut-être de ralentir un peu le talent des Hurricanes de la Caroline, mais ça semble pas le cas, mais pas du tout. Et ça fait en sorte qu'on mène 3-1 face aux Islanders. On est en deuxième. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Vous avez raison. Sauf que quand même, les Hurricanes de la Caroline qui mènent cette série 2-0. Dans les autres matchs, vous aurez demain les Rangers qui vont affronter les Capitals de Washington. New York qui mène cette série 2-0. Les Canucks de Vancouver vont faire face aux Prédateurs de Nashville demain. La série est égale 1-1. Les Jets contre le Colorado, 1-1 également dans cette série. Et les Oilers qui vont affronter les Kings. Ça se passe du côté de Los Angeles. Et on vous en parlait, là. Les Oilers, selon moi, personnellement, j'ai l'impression que les Oilers, cette année, ont décidé de laisser de côté les records individuels pour que le collectif gagne. Tu sais, qu'on n'utilise pas McDavid en fin de saison. Quand il pouvait aller chercher le plateau des 100 passes, on a décidé de le reposer parce qu'on veut qu'il soit en pleine possession de ses moyens quand on arrive en série de fin de saison. Ben moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je vais regarder du côté de Toronto. On a continué à utiliser Auston Matthews à profusion parce qu'on voulait aller chercher un 70e filet. Ça ne fut pas le cas. Puis là, je ne blâme pas Matthews. C'est son droit. Il peut faire ce qu'il veut. Puis je dis pas que Toronto va se faire lessiver contre les Bruins de Boston, parce que j'ai mis les Leafs de Toronto gagnants de cette série-là en 6. Imaginez, là. Moi j'ai dit ça en 6. Moi j'ai les Leafs, moi là. Pff, aucun sens. Mais ceci étant dit, c'est que cette année, on voit que on a mis les priorités, sont à une place différente du côté des Oilers d'Edmonton, et on espère qu'ils sont en mesure, parce que McDavid est, sans l'ombre d'un doute, le joueur le plus utile présentement à son équipe. Hyman marque en quantité industriel. Vous avez un club qui semble bien balancé, mais tout ça tient sur Skinner comme gardien de but. Ça, c'est un point d'interrogation. Et parlant des gardiens de but, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le début des séries de fin de saison, parce que vous avez pris du temps, j'en suis convaincu, pour jeter un œil là-dessus. Les gardiens de but se font brasser, là. Ça n'a aucun sens. La rondelle est devant le filet. Le gardien Swayman, on le voyait, là. Met la rondelle, met la mitaine sur la rondelle. 4-5 gars, plus l'équipe en défensive. Ils sont rendus 8, ils sont rendus 10. On a l'impression que c'est du rugby. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que le spectacle doit passer avant le code, avant la réglementation de la Ligue nationale de hockey?
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
On va parler de la Ligue professionnelle de hockey féminin avec Daniel Sauvageau qui est avec nous. Salut Daniel!
Salut, comment vas-tu?
Ça va super bien. Daniel, avant qu'on se parle de cette victoire hier importante pour l'équipe de Montréal, on s'est qualifié pour les séries. Tu voulais nous parler de Bob Cole. C'est quelqu'un que tu as côtoyé quand même pendant un certain temps?
Oui, pendant pratiquement 2 ans, lorsque j'ai été à la soirée du hockey avec Radio-Canada, en fait, de 2002 ensuite, pour terminer là, en 2005, et ensuite là les droits de la soirée du hockey a été transféré, si on veut, de l'autre côté de la rue à RDS. Mais et moi, je travaillais là les samedis soirs, donc c'est les matchs que Bob faisait. Je devrais dire Monsieur Cole. C'est un monsieur de Terre-Neuve, prenait l'avion à tous les vendredis. Tout le monde le connaissait. Tu sais, aujourd'hui, ça nous prend des accréditations. Alors, lorsqu'on va au Centre Bell, il faut porter de l'accréditation, même si la plupart des gens peuvent potentiellement nous reconnaître. Mais lui, vraiment, dans les aéroports, tout le monde lui parlait. C'était comme... quand j'ai su aujourd'hui, c'était non, mais ça se peut pas. Tu sais, c'est le genre d'humain qu'on a l'impression qu'ils sont éternels. Mmh. Et évidemment, moi, j'avais jamais fait ça de l'analyse. J'avais fait le match là à Salt Lake City du côté de la radio, et c'est là finalement que j'avais eu un petit peu là, l'offre de Radio-Canada. Mais il m'a grandement aidé à un moment donné où c'était peut-être plus rare parce que j'étais la seule de femme. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui a marqué ma vie de façon très, très, très positive. J'étais pas une compétition pour lui. J'étais pas une compétition en fait à personne. Mais c'est vraiment un monsieur qui était là pour aider les gens. Et il connaissait tout le monde et tout le monde lui faisait confiance. Et il savait, c'est sûr qu'il faisait l'analyse, la description des matchs, mais il savait quoi dire et quoi pas dire. Puis j'avais l'impression qu'il y avait plusieurs joueurs de hockey qui se confiaient à lui. Mmh. Alors pour moi, c'est quand j'y suis aujourd'hui, ça m'a ramené à plusieurs années en arrière. Et évidemment, c'est quelqu'un qui, comme moi, en tout cas, qui pour moi, je devrais dire, qui m'a marqué. Puis je suis convaincu que je suis vraiment pas unique de ce côté-là.
Donc, la voix de Hockey Night in Canada malheureusement, oui, décède aujourd'hui, Bob Cole, à l'âge de 90 ans. Maintenant, Daniel, parlons de cette performance-là. Montréal qui se qualifie avec cette victoire de 5-2 contre New York. New York, je veux pas dire que c'était une proie facile. On devait jouer ce match-là, mais c'était favorable pour l'équipe montréalaise. Est-ce que, là, on parle au DG de l'équipe de Montréal, est-ce que ce club-là est prêt pour les séries? Est-ce que les filles sont prêtes?
Oui, en fait, tu sais, hier, c'est vrai que avant le match d'hier, on avait encore 3 matchs à jouer. Il fallait aller chercher 2 points sur 12, mais c'est hier qu'on voulait le faire. Pourquoi? Parce que c'était à la maison. Mmh. Et New York, c'est une équipe qui, encore une fois, là, on se parlait hier, puis on se disait, c'est une équipe qui a peut-être manqué de chance, mais c'est une équipe bien équilibrée, probablement. Les 4 meilleurs défenseurs, ou à peu près, là, parmi les 4 meilleurs défenseurs de la Ligue, ça tournait. Et Carpenter, qui est une des meilleures pointeuses et marqueuses de la Ligue, a joué un excellent match. Mais de l'autre côté, il y a une Anne-Renée Desbiens qui a décidé de dire à Madame Carpenter, ben toi, ce soir, tu peux jouer le match que tu voudras, mais moi, je vais tout arrêter de devant moi. Et oui, c'était un match important parce qu'on voulait le gagner à la maison. Et pour nous, les fans, nos partisans, c'est exceptionnel tout ce qu'ils nous ont donné cette année. Et je pense que c'est la raison qui a motivé les joueurs à dire oui, puis en même temps, on veut finir premier, donc chaque point est important. Mais pour nous, là, de venir gagner à la maison, on a connu une très bonne deuxième période, moins en première. Alors, pour revenir à ta question, pour être prêt pour les séries, il faut que tu aies été exposé à plusieurs situations et il faut qu'à un moment donné, tes unités spéciales fonctionnent bien. Et de ce temps-ci, malgré un départ excessivement lent, notre avantage numérique est extraordinaire.
c'est une bonne chose parce que tu l'as mentionné, c'est ce qui fait la différence. On le voit en série de fin de saison. Quand tu es capable de profiter de l'avantage numérique du côté de la Ligue nationale, eh ben c'est ce qui t'amène un peu plus loin dans les séries. Là, je vais te faire entendre un extrait. OK? Après le match d'hier, Catherine Dubois, écoute, elle dit quelque chose de pas pire. Je pense que tout le monde pense. Puis c'est juste le fun qu'elle ait parlé de ça. On l'écoute.
Ça va être incroyable de vivre ça à Montréal. Puis je suis contente qu'au moins, tu sais, vu que les gars, ils le donnent pas aux partisans, que nous, on peut le faire. Comme ça! Comme ça!
Oh non, c'est ça.
Oh, que c'est bon!
I just, yeah, oh, I'm going to tell you after.
Daniel, avez-vous dit quelque chose à Catherine? J'espère que vous lui dites, reste naturel comme tu es, là.
Catherine, c'est de l'or en barre, dans le sens où c'est un être qui a tellement là, le cœur lorsque les jeunes, les plus jeunes de l'équipe, elle a un quotient. Tu sais, quand on parle là, d'être capable de voir autour de toi, d'être alerte, de bien saisir le groupe et d'être là pour le groupe, ça, c'est Catherine Dubois. Alors, lorsqu'elle a dit ça hier, elle a dit « Oups, tu sais, peut-être que je devrais pas dire ça ». Oui, tu peux le dire parce que ça fait partie de ce qu'on veut. Puis après ça, tu sais, imagine à un moment donné si l'équipe, notre équipe et le Canadien de Montréal gagnaient dans la même année, comment ça serait festif, non seulement ici à Montréal, mais au Québec. Alors non, il faut pas la changer parce qu'elle a une belle humilité. On sait qu'il n'y a jamais de méchanceté lorsqu'elle s'exprime. Alors, non, on veut pas la changer du tout.
Daniel Sauvageau, est-ce qu'il est trop tôt pour te poser la question suivante? Comment on fait pour battre Toronto?
En fait, on a joué un excellent match samedi dernier au Centre Bell. Lorsqu'on regarde nos statistiques, lorsqu'on regarde aussi, analyse un petit peu plus près nos chances de marquer, on a eu l'occasion on a trois poteaux dans le match. Et à un moment donné, ben il faut simplement continuer. Et les poteaux vont peut-être se changer en but. Peut-être que le but de Sarah Nurse, là, lorsqu'elle a fait dévier là, peut-être à 20 pieds d'Anne-Renée Desbiens, ben au lieu de rentrer dans le filet, c'est peut-être à côté du filet que ça va tomber. Alors pour nous, il faut continuer de progresser. Nos résultats démontrent qu'on progresse. On a parlé de nos unités spéciales à 5 contre 5, l'utilisation de nos 4 trios. On a 8 défenseurs potentiels. Évidemment, on les utilise pas tout le temps, d'une certaine façon, mais ils vont sur la glace de ce temps-ci. Alors, pour nous, c'est une progression et on la voit autant sur la glace que dans les statistiques. Et je pense que c'est là qu'on doit continuer d'investir. Et pour gagner la Coupe, mais il faut battre les deux, il faut gagner les deux séries. Alors qu'on commence contre une équipe ou une autre, il faut les gagner les deux et c'est l'objectif.
En terminant, Mélodie Daou, vous continuez l'aventure. Un autre contrat, c'est quoi, une dizaine de jours, c'est ça?
Oui, c'est des contrats de 10 jours. Alors, ça nous amène là. Et lorsqu'on signe un contrat, ça ne veut pas dire que l'athlète est utilisé pendant 10 jours, mais ça nous donne l'opportunité au moins de l'utiliser. Alors, encore cette semaine, on a eu quelques blessures. On n'a pas été chanceux de ce côté-là cette année. Alors, ça nous donne l'opportunité justement là, d'avoir une joueuse qui a joué sur des grandes scènes aux Olympiques, aux championnats du monde. Alors, elle nous a rendu grandement service dans le match notamment d'hier.
Bon, ben Daniel Sauvageau, merci énormément. On vous souhaite bonne chance pour la suite des choses. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Daniel.
Merci, à bientôt.
Voilà, bye. C'était Daniel Sauvageau, directrice générale de l'équipe montréalaise de la Ligue professionnelle de hockey féminin, qui a garanti sa place en série hier avec cette victoire de 5-2 face à New York.
Les amateurs de sport.
C'est 23.